Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Leridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le. Dernier temps de notre série consacrée aux 10 ans des printemps arabes, après avoir évoqué lundi l'expérience démocratique tunisienne, mardi la persistance du pouvoir de l'armée du côté de l'Égypte et du Soudan, et puis hier l'internationalisation des guerres civiles syriennes et libyennes. Tournons-nous aujourd'hui vers un pays où la contestation fut violemment réprimée il y a 10 ans avant de renaître sous une nouvelle forme ces dernières années, ces derniers mois, avec cette aspiration à dépasser les clivages confessionnels. Direction l'Irak.
Aujourd'hui, des gens de différentes provinces sont venus à Bagdad pour soutenir les Irakiens blessés et les martyrs. Honte au gouvernement.
Non au couvre-feu, nous resterons ici, même s'il y a des sanctions. Ça ne nous fait pas peur, on reste ici, même si 1000 d'entre nous sont tués.
Vous ne pouvez pas stopper cette génération qui connaît la mondialisation et qui a été élevée dans l'idée de démocratie et d'ouverture d'esprit. Les autorités démissionnaient.
Nous ne voulons pas de parti ni de sectarisme, ni les sunnites ni les chiites. Nous voulons un pays. Nous ne voulons rien d'autre. On en a assez.
Nous sommes ici car nous demandons justice pour les manifestants qui ont été tués. Jusqu'à présent, nous n'avons vu personne accusé de ces crimes. Aucun des politiciens n'a dit quelque chose. Le gouvernement d'Al-Qaïdimi n'a rien fait pour le peuple irakien.
Les manifestations massives déclenchées en 2019 du côté de l'Irak, qui subsistent depuis par étincelles en dépit d'une répression très forte et de la crise sanitaire, ont pu donner l'impression que le pays connaissait, à l'instar du Liban, un printemps à retardement. Pourtant, dès 2011, des mouvements de contestation avaient émergé, notamment dans les régions kurdes de Souleymanie, où les habitants s'étaient mobilisés contre les pouvoirs locaux avant d'être rapidement rappelés à l'ordre. Des manifestations avaient également eu lieu dans les territoires sunnites. Et leur répression, tout aussi violente, avait progressivement tourné à la guerre civile, ouvrant la voie à la prise de pouvoir de l'État islamique. Les années de conflits qui ont suivi ont achevé de ravager un pays déjà laissé exsangue par la guerre américaine contre le terrorisme. Mais eh bien, l'espoir d'un renouveau démocratique n'est peut-être pas totalement mort. Car si les régions qui se soulèvent depuis 2019 ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, on retrouve dans ce mouvement le répertoire d'action des printemps arabes, comme l'occupation des places notamment. Loin des querelles identitaires qui ont longtemps miné le pays, on observe ces dernières années des populations kurdes qui se soulèvent contre des autorités kurdes, des populations chiites contre un gouvernement chiite, avec un appel à dépasser le confessionnalisme. Alors ce dépassement du confessionnalisme et du communautarisme irakien, revendiqué par un certain nombre de manifestants, est-il possible? Quelle place tiennent encore l'espoir démocratique, le désir de réforme aux yeux d'une population épuisée par la succession des guerres? Quel est le rôle aussi des omniprésentes milices chiites dans la répression systématique de toute tentative de contestation en Irak? Et comment les pays voisins, et notamment l'Iran évidemment, pèsent pour empêcher la reconstruction d'un État irakien fort et indépendant? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Adel Bakawan. Bonjour Adel Bakawan.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du département recherche de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes et Moyen-Orient, l'IREMO, et puis également directeur du Centre de sociologie de l'Irak de l'Université de Sorane. Avec nous également Arthur Kenney. Bonjour Arthur Kenney.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes chercheur postdoctorant en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. À l'automne 2019, Adel Bakawan, l'Irak a été secoué, je le disais, par une série de manifestations qui ont été brutalement réprimées, des mobilisations qui avaient ce site particulier qu'elles visaient surtout les responsables politiques irakiens à qui on reprochait d'être corrompus, incompétents. Et ces révoltes avaient été d'autant plus surprenantes qu'elles semblaient au départ aspirer à dépasser les clivages confessionnels qui structure, on le sait, les conflictualités dans ce pays depuis tant d'années. Et finalement, on a envie de rapprocher ce mouvement de 2019, qui n'est pas mort, on y reviendra, à ce qui s'est passé au moment du printemps arabe. Jusqu'où la comparaison vous semble tenir? Est-ce que vous diriez que les révoltes qui ont émergé en 2019 sont d'une certaine manière un écho de ces printemps arabes de ce début de la décennie 2010?
Je dirais plutôt ce mouvement de contestation de 2011 à ce jour, parce que le mouvement n'est pas mort, comme vous l'avez bien dit. Peut-être aujourd'hui, il est pour des raisons bien évidemment objectives, mises entre parenthèses, mais le mouvement est là. Je dirais le mouvement est une très très belle expression de la réalité quotidienne en Irak. Et ce que vous avez dit, l'intitulé de votre émission, le dépassement du confessionnalisme et du communautarisme, effectivement, constitue vraiment une valeur communément partagée par toutes les bases sociales irakiennes. Et quand je dis les bases, je dis pas la base, parce qu'il n'y a pas une base sociale irakienne, il y a des bases sociales irakiennes. Vous avez la base chiite, la base sunnite et la base kurde. Ce phénomène, cette demande venant de ces bases-là, est communément partagé. Mmh. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, est-ce que à l'échelle globale, à l'échelle macro, il y a des chances pour que cette demande venant de toutes ces bases-là et communément partagée aboutisse?
C'est la grande question.
C'est la grande question.
On va essayer justement de voir si cette convergence est possible. Arthur Kenney, est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur ce qu'il reste aujourd'hui de ces manifestations qui avaient émergé en 2019? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et puis nous faire peut-être à la fois une géographie, mais aussi une sociologie de tout cela, essayer de comprendre où on manifeste. Est-ce que c'est toutes les communautés, effectivement, chiites, sunnites, kurdes qui manifestent, ou est-ce que peut-être il y a des distinctions à faire? Arthur Kenney.
Eh bien, pour commencer, je dirais que c'est le retrait américain de 2011 qui redonne la parole aux Irakiens. La fin de l'occupation américaine qui, dès 2011, permet aux Irakiens de redescendre dans la rue avec la perception que la guerre civile se termine et qu'une nouvelle page se tourne. Cette nouvelle page, elle va être dominée malheureusement par le gouvernement du Premier ministre Maliki qui entraîne une répression farouche contre les populations sunnites, qui perçoivent comme populations insurgées, anciens baassistes, etc. Alors même que dans les grandes villes du nord de l'Irak, Mossoul, Kirkouk, mais aussi d'autres villes sunnites proches de Bagdad, des manifestations s'enclenchent pour demander la fin le moins de corruption, le départ d'une classe politique corrompue et des réformes. Et surtout également la sortie du confessionnalisme, c'est-à-dire la fin de la nomination, le confessionnalisme qui permet aux partis politiques chiites de dominer la scène politique. Ces premières tentatives de mobilisation qui apparaissent dès 2011-2012 se poursuivent. Cependant, la répression va vite les stopper. Et puis ensuite, la guerre contre l'arrivée de l'État islamique va totalement épuiser la société.
Mais ce que vous voulez dire, Arthur Kenney, qu'on a peut-être oublié ou dont on n'a peut-être pas forcément conscience, c'est que dès les mouvements populaires de 2011, on a cette aspiration à dépasser les clivages confessionnels. C'est ça que vous nous dites?
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est donc là où je voulais en venir. Donc en 2019, lorsque les mobilisations réémergent à Bagdad. Bien sûr, les territoires sont différents, les populations qui y participent sont différentes, le contexte également, mais on est dans la continuité de modes d'action qui rappellent bien évidemment ceux du reste du printemps arabe, mais de continuité, donc de sitting, les mêmes slogans tendent à revenir. Alors par contre, en revanche, les populations sunnites, elles, ont été totalement écrasées. Des villes comme Mossoul ne se remettent pas, toujours pas. Et bien sûr, donc bien entendu, les mobilisations changent de territoire et se déplacent vers Bagdad et puis vers des villes chiites. Mais il faut rappeler que même dans ces villes, les mobilisations restent multiconfessionnelles, multicommunautaires. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des sunnites, des chiites, des chrétiens, des kurdes qui se joignent à ces manifestations.
La question à Adel Bakawan, parce que ce qu'on comprend bien, c'est que il y a quand même des mouvements qui sont assez disparates, c'est-à-dire que on a encore des éclats ça et là de contestation très locale. Alors c'est vrai, Arthur Kenney nous le précisait, plutôt en territoire chiite et kurde, parce que du côté des territoires sunnites, la moindre contestation est considérée comme du terrorisme et donc brutalement réprimée, donc c'est quasiment impossible pour les sunnites de s'élever. Alors ils le font malgré tout, parce que comme le disait Arthur Kenney, il leur arrive de se déplacer dans d'autres villes, y compris des villes chiites, et d'aller manifester aux côtés de chiites irakiens. Mais est-ce qu'une convergence de tous ces mouvements locaux vous paraît possible? Est-ce que l'émergence d'un grand mouvement au niveau national est une utopie totale ou c'est possible?
Dans le contexte irakien, et cela est peu probable, mais je reprends, je vais répondre un peu plus en détail en commençant par la communauté sunnite. En réalité, le mouvement de contestation entre 2011 et fin 2013, début 2014, commence non pas dans le territoire chiite, mais dans le territoire sunnite. Mmh. Ce mouvement de contestation est le résultat, un résultat logique et rationnel de ce qu'on a appelé à un moment donné de l'échec du Conseil du Réveil. Hein, le Conseil du Réveil qui a été mis en place avec l'accompagnement des États-Unis d'Amérique, une révolte armée, mais aussi sociale et politique contre la présence des djihadistes dans le territoire sunnite. Le Conseil a gagné la guerre à l'échelle militaire contre Al-Qaïda, mais a perdu son intégration au sein, la promesse de son intégration au sein de l'État irakien, à cause de, bien évidemment, des politiques de Nouri al-Maliki. Et une fois,
est-ce que vous pouvez, Adel Bakawan, pardon de vous arrêter, mais c'est un moment très très important, ce moment-là que vous décrivez, parce que c'est aussi ce qui se passe à ce moment-là qui va permettre de rassembler les conditions d'émergence du califat de Daesh. Quelle est la responsabilité très précisément, Adel Bakawan, des responsables irakiens chiites de l'époque, c'est-à-dire d'Al-Maliki et de son gouvernement, qui va pousser ce camp sunnite à la radicalisation et donc par ricochet permettre l'émergence d'un califat? Est-ce que vous pouvez là nous détailler un tout petit peu ce moment-là qui est décisif?
Absolument, absolument. Lorsque Paul Brimard arrive en Irak le 10 mai 2003, le 12 mai, deux jours plus tard, il met en place un décret connu sous le nom de la débasification. Lorsque Nouri Maliki arrive au sommet de son pouvoir, hein, notamment son deuxième mandat, à partir de 2010, il va reprendre ce décret sur la débasification en l'élargissant et en l'appliquant comme un mécanisme de la désunification, non seulement de l'État irakien, mais aussi de la société irakienne. Hein. Analysons sa réaction, sa politique, sa stratégie face à ce mouvement de contestation émergé dans le territoire sunnite. Ce mouvement était totalement civil, non armé, aucune violence, aucune stratégie d'action violente, des rassemblements, mais a été réprimé par tous les moyens les plus extrêmes.
Alors, cette débasification, pour les auditeurs, le parti basse, c'est le parti qui était au pouvoir, qui gérait le pays sous Saddam Hussein. Dès le départ des troupes américaines, Al-Maliki est, lui, persuadé qu'il y a un complot qui est en route pour remettre précisément ce parti basse au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle il va déclencher ces arrestations des principaux leaders sunnites. Et c'est ce qui va donc provoquer cette colère profonde du camp sunnite. Est-ce que c'était justifié, Adel Bakawan?
Absolument.
Je veux dire, est-ce qu'il y avait un projet politique du parti basse qui visait à déposer les responsables politiques chiites et à reprendre le pouvoir?
Non, absolument pas. Absolument pas. Objectivement, le parti basse est totalement anéanti. Aujourd'hui, le parti basse, ni dans les années 2010, ni aujourd'hui, le parti basse ne constitue pas un acteur ni majeur ni mineur qui détermine les orientations de la politique irakienne. Et donc, j'y viens rapidement. Non, le projet de Nouri al-Maliki était un projet totalement confessionnel, et à partir de ce confessionnalisme, il a écrasé le mouvement de contestation civile sunnite, désespéré, marginalisé, abandonné, écrasé. La base sociale sunnite, comme vous l'avez dit, se trouve l'organisation de l'État islamique relativement sauveur, je dis bien, on a un sauveur face à Nouri Maliki et sa politique de répression. Alors maintenant, on est en 2021, est-ce qu'il y a le minimum des conditions objectives pour que ce mouvement de contestation avec ses rêves, le rêve, ce que j'appelle dans un article le rêve irakien, autrement dit le dépassement du confessionnalisme et du communautarisme, se mettre en place et réaliser ces... Malheureusement non. Pourquoi? Parce que à ce jour, vous n'avez pas une collectivité nationale. Mmh, vous n'avez pas tout simplement un État. Pour démocratiser un État, il faut avoir un État. Pour mettre en place la politique de la justice sociale, il faut avoir une collectivité nationale. Or, à ce jour-là, à cause de des différentes politiques mises en place de 2003 à 2021, nous n'avons malheureusement pas ni un État irakien, ni une collectivité irakienne, ni une société irakienne. Ce qui se passe à Souleymaniyah restera à Souleymaniyah. Ce qui restera à Najaf et à Karbala restera à Karbala. Et je vous donne un seul indicateur. Parmi les 600 manifestants tués par le gouvernement irakien entre 1er octobre 2019 et à ce jour, il n'y a pas un seul sunnite. Il n'y a pas un seul Kurde. Et lorsque le mouvement de contestation s'est déclenché dans la ville de Souleymaniyah récemment, il n'y a eu aucun soutien à part quelques drapeaux ou quelques slogans. Il n'y a pas eu un soutien concret de ce mouvement de contestation. Et je m'arrête là. Je viens analyser, j'analyse depuis 12 mois 225 heures de parole des manifestants de Bassoura et des jeunes de Mossoul suite
donc
à une enquête.
Bassoura chiite et Mossoul sunnite, je précise pour les auditeurs.
Exactement, sur les 35 entretiens détaillés, chaque entretien 3 heures des jeunes sunnites entre 15 et 25 ans, il y a une grande interrogation de ces sunnites jeunes par rapport au mouvement de contestation suite à ce qui s'est passé en Irak.
Donc ça veut dire qu'on a, et je vous demande une réponse courte et ensuite je vais donner la parole à Arthur Kenney, mais dans cette jeunesse de Bassora, donc chiite, et dans cette jeunesse de Mossoul sunnite, cette aspiration à dépasser les confessionnalismes, mais est-ce qu'on peut justement s'entendre? Est-ce qu'on se parle entre ces communautés? J'entends chez les jeunes, évidemment, hein, c'est aussi ceux qui vont faire l'Irak de demain.
Hélas, non. Non, on n'a pas un langage commun, on n'a pas des espaces de rencontre.
Ouais, on reste campé dans sa propre communauté d'une certaine Absolument. Manière. On va retrouver Arthur Kenney, qu'on n'a pas entendu depuis un moment. On va vous dire toute la vérité, c'est parce qu'on l'avait perdu. C'est ça aussi la radio à distance. On vous a retrouvé, Arthur Kenney. Vous êtes là, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Bon, voilà, formidable. Alors, on va reprendre cette question des révoltes de 2019 qu'on évoquait tout à l'heure. Et je voudrais qu'on s'intéresse au camp chiite en particulier. Parce que pour le camp chiite, dont vous nous disiez ce camp chiite, qu'il avait aussi participé justement, qu'il était de ce grand mouvement social, de cette colère-là qui gronde. Pourtant, quand on regarde les choses, qu'on fait le bilan de la décennie 2010, ces chiites apparaissent comme les grands vainqueurs. On a la chute de Saddam Hussein, on a des chiites qui reviennent au premier plan, qui contrôlent le jeu politique. Sur le plan militaire, on a des milices chiites qui sont toutes puissantes, qui en réalité sont l'essentiel de l'appareil sécuritaire de l'État, si on peut encore parler d'État irakien. Mais dans ce contexte-là, comment comprendre qu'on ait eu, dans les régions chiites aussi, des manifestations? Qu'est-ce que les chiites peuvent reprocher à leurs leaders, alors même que cette décennie 2010, et même on peut remonter à avant, les 15-20 dernières années, ça a été tout bénéfice pour eux, si je peux dire. Arthur Kenney.
Je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a une vraie déconnexion entre la population irakienne et l'ensemble des composantes de cette population, et la scène politique, et les partis qui accaparent les institutions, accaparent les ressources de l'État à des fins privées. Et finalement, même le mouvement milicien qui commence en 2014, grande mobilisation populaire pour lutter contre l'État islamique, finalement, elle est absolument pas représentative déjà de l'ensemble de la population chiite, et ensuite elle va tenter également d'accaparer les ressources et devient une nouvelle strate en fait d'organisation politico-milicienne qui tente d'accaparer le pouvoir. Face à ça, les problèmes de la population chiite, c'est-à-dire les populations du sud, du centre et du sud de l'Irak, vont être les mêmes que dans le reste du pays, c'est-à-dire corruption, détournement, une scène politique bloquée qui répond absolument pas à leurs revendications, et puis une paupérisation de la société massive sous l'effet d'une exode rural et puis d'une transformation de la société irakienne. On voit des écarts de richesse se creuser et face à ça, un gouvernement qui prend absolument aucune mesure, aucune réforme, et gouvernement qui en plus se retrouve pris dans des conflits entre milices chiites et d'autres factions du camp chiite, Ce qui fait finalement que finalement la population perçoit que le seul moyen de débloquer cette situation, c'est de descendre dans la rue et de revendiquer leurs droits.
Adel Bakawan, ce qui a fait la force malheureusement de l'organisation d'État islamique, c'est cette capacité à obtenir précisément le soutien de cette population, des populations locales. Arthur Kenney insistait sur cette fracture entre les leaders, les élites et les populations locales. Et ça a été justement la grande force de l'État islamique. Alors c'est un soutien qui a été obtenu par le truchement d'un deal qui était en gros, vous faites allégeance à Daesh et vous reprenez votre souveraineté vis-à-vis du pouvoir central. Est-ce que cette réussite, malheureusement, pour le pire, il faut en tirer des leçons pour l'Irak de demain. Est-ce qu'il faut comprendre qu'en réalité, pour le futur, pour la reconstruction de l'État irakien qui aujourd'hui a tant de mal à exister, hein, vous avez écrit un ouvrage, Adel Bakawan, intitulé « L'impossible État irakien ». Est-ce que pour rendre à nouveau possible ce projet étatique en Irak, il faut justement, refaire les choses en repartant du local et donc à remettre en place un pouvoir au niveau local et donc engager des réformes structurelles qui visent à décentraliser tout simplement le pouvoir. Adel Bakawan.
Il faut à partir de qui, à partir de quoi, à partir de comment. La grande pathologie de l'Irak actuel, c'est que vous n'avez pas des élites qui portent un projet national. Vous n'avez pas...
Bah, à partir de quoi, Adel Bakawan? Proposition, à partir de la Constitution. La Constitution de 2005, parce que le chapitre 5 de la Constitution, il décrit une organisation territoriale, une fédération irakienne, avec un système fédéral, avec une capitale, des régions, des provinces non organisées en régions. On a tout, en réalité, pour organiser cette délégation de pouvoir.
Oui, mais bien évidemment, bien sûr, vous avez une constitution unique de son genre dans l'histoire de l'État irakien, un siècle d'histoire, bien sûr. Mais on sait très bien qu'une constitution, un papier, ne peut pas déterminer les pratiques quotidiennes. Personnellement, je pense, tant que vous n'avez pas des élites qui portent ce projet de la reconstruction irakienne à l'échelle nationale, de la mise en place d'un référentiel irakien, d'élaboration d'un contrat social avec lequel on fait consensus, un cadre de vivre ensemble. Vous parlez de la par exemple du système fédéral. Le système fédéral, bien sûr, est un article adapté, intégré dans la constitution irakienne, mais cet article, cette question du fédéralisme est un objet des rapports de force. À chaque fois un acteur monte en puissance et monopolise la violence, supprime tous les droits à une autre communauté ou une autre composante de la société irakienne. Personnellement, je pense, malheureusement, le constat est dramatique, mais il faut le dire, on n'est pas là pour provoquer, bien évidemment, des espoirs non réalisables, mais décrire la réalité telle qu'il est. Oui. Je pense, personnellement, les scénarios qui attendent l'Irak, on peut commencer toujours par le discours d'Ayatollah Sistani. Je pense, personnellement, le discours d'Ayatollah Sistani a une certaine crédibilité et il faut le prendre d'une manière très sérieuse. En compte. À chaque vendredi, Ayatollah Sistani alerte les Irakiens du glissement vers la guerre civile. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les conditions objectives sont réunies pour que les Irakiens se trouvent dans une guerre civile à la libanaise entre 75 et 90. Ça, c'est le premier scénario qui attend l'Irakien. Le deuxième scénario...
Je rappelle Adel Bakawan, pour que les auditeurs puissent suivre, Ali al-Sistani, c'est un ayatollah iranien, voilà, une personne très influente en Iran, mais aussi surtout en Irak.
Voilà, oui.
Non, mais pour les auditeurs, ils savent pas
sûr,
tous.
Bien, voilà, sûr. Bien sûr. Le deuxième scénario, ce qui est le plus probable, c'est ce que vous dites, c'est la constitution. Trois entités fédérées, voire confédérées en Irak, notamment depuis quelques mois. On suit de près les élites sunnites, pour la première fois de leur histoire, revendiquent un territoire sur la base de la sunnicité. Qu'est-ce que la sunnicité? C'est que ils sont persuadés à ce jour-là qu'ils n'ont aucune chance de s'intégrer dans l'État irakien, cet État prise en otage par les milices et que la seule solution, c'est construire une entité fédérée à l'instar de l'entité fédérée kurde.
Alors justement, les Kurdes, Adel Bakewan, puisque vous dites, c'est très difficile effectivement de lire dans le futur, de savoir ce qu'il faut faire. Et vous avez raison, il faut s'attacher aux faits, disiez-vous. Ben, on va regarder justement les faits et intéressons-nous en particulier aux Kurdes. Parce que s'agissant de la région du Kurdistan, après la constitution que j'évoquais tout à l'heure, on va réunir les deux zones kurdes en une seule et on va demander la convocation d'un référendum destiné à entériner les frontières de la région. Sauf que le dit référendum, il est perpétuellement reporté, à tel point que, quasiment 10 ans plus tard, pas tout à fait, en 2014, on a ce coup de force avec l'annonce de l'organisation d'un référendum.
Je tiens à vous dire, premièrement, que nous allons établir rapidement une commission électorale indépendante au Kurdistan et deuxièmement, que nous allons préparer un référendum pour décider de notre indépendance.
Nous allons le soutenir avec toute notre âme et notre argent. Rester avec Bagdad est devenu impossible. Parfois, ses dirigeants sont avec nous. D'autres fois, ils sont contre nous.
Voilà, on entendait notamment Massoud Barzani qui, donc en juillet 2014, évoquait l'idée de ce référendum sur l'indépendance qui va avoir lieu en septembre 2017, qui va voir la victoire assez large du oui, mais qui va provoquer évidemment la colère de Bagdad. Arthur Kenney, force est de constater que ce coup de force tenté par les dirigeants kurdes a été un échec. Non seulement l'indépendance n'a pas eu lieu, mais en plus, il y a eu une violente répression du pouvoir central. Finalement, pourquoi cet échec, Arthur Kenney, et pourquoi on n'arrive pas à organiser l'émancipation progressive de ces territoires?
Tout à fait, un échec total même. Premièrement, le Kurdistan irakien n'a absolument pas les moyens de devenir indépendant. Il dépend totalement de Bagdad sur le plan économique, financier. La banque centrale de Bagdad gère l'ensemble de l'économie dans le système kurde-irakien. La souveraineté des frontières également passe par Bagdad. Et finalement, même les deux grands partis kurdes, le PDK de Massoud Barzani et l'UPK du feu Talabani, n'ont pas les moyens de gouverner la société sans les ressources provenant de Bagdad. Derrière ça, je pense que deuxièmement, les tentatives d'autonomisation de certaines régions en Irak sont à chaque fois des échecs. Pourquoi ? Parce que dès qu'elles s'autonomisent un peu trop, elles perdent les ressources de l'État central et donc n'ont plus les moyens de fonctionner normalement. Et donc l'État central revient rapidement dans le giron. Je pense que la perspective d'un Irak, de reconstruire un Irak fort, national, etc., existe en Irak et est actuellement portée par notamment les milices chiites, donc les organisations politico-militaires chiites qui sont montées en force pendant la guerre contre l'État islamique et qui ne sont pas composées uniquement de militants chiites. On les retrouve au nord de l'Irak, aux frontières du KRG, à Mossoul, dans le Sinjar, dans la plaine de Ninive, qui est majoritairement chrétienne, mais aussi ailleurs. Et en fait, elles ont réussi à intégrer, à coopter différentes factions communautaires, comme les yézidis, les chrétiens, les shabaks, les kurdes faélis, et évidemment les sunnites. Et vous avez énormément de milices sunnites travaillant directement pour le pouvoir des organisations politiques miliciennes chiites. Donc en fait, la situation est beaucoup plus complexe. Je pense qu'on va, l'Irak ne va pas forcément dans le sens d'une séparation tripartite. Au contraire, cela pourrait déboucher sur un renforcement du pouvoir central, du contrôle du pouvoir central sur le reste du territoire.
On reviendra tout à l'heure à Arthur Kenney sur cette question des milices chiites. Ça fait plusieurs fois que vous l'évoquez l'un et l'autre. On va essayer de comprendre comment elles s'organisent, leur poids politique, etc. Il y a plein de choses aussi qu'il va falloir nuancer. On va y venir. Mais si on reste sur la question kurde, Adel Bakewan, on a vu ces velléités durant cette décennie 2010 à prendre vraiment de l'autonomie, voire carrément de l'indépendance. On a vu la colère que ça a provoqué du côté de Bagdad, mais après tout, on aurait pu penser, il y avait un certain nombre de choses qui laissaient penser que cette autonomisation était possible. D'abord, il y a eu quand même, il faut le rappeler aussi, une entente de circonstances entre le pouvoir chiite de Bagdad et les Kurdes, à la faveur de cette alliance contre l'État islamique. On avait par ailleurs un soutien, le pensait-il en tout cas, de la part des Occidentaux. On avait un certain nombre d'éléments qui laissaient penser que peut-être cette autonomisation était possible. Alors, l'indépendance, c'était peut-être trop fort. La carte jouée par Massoud Barzani était probablement une mauvaise carte parce qu'elle était trop ambitieuse d'une certaine manière. Mais pourquoi même le chemin de l'autonomie n'est pas possible, Adel Bakawan? Est-ce que vous êtes tout à fait aligné sur ce que disait Arthur Kenney? C'est-à-dire, c'est une question de moyens en réalité.
Mais l'autonomie est déjà là. L'autonomie, non seulement l'autonomie, mais parce que l'autonomie est un état minime que le fédéralisme. Non seulement l'autonomie, mais aussi le fédéralisme est là depuis 91-92. Autrement dit, l'entité fédérée est reconnue par la constitution irakienne et mise en place par les Kurdes depuis 30 ans. Mais la question n'est pas là. La question, c'est l'indépendance, comme vous dites. Pourquoi les Kurdes n'ont pas pu obtenir leur indépendance le 25 septembre 2017. Personnellement, entre 2006 et 2014-2015, j'avais une grille de lecture en pensant que si les Kurdes ne peuvent pas, n'ont pas pu devenir en Irak, n'ont pas pu obtenir leur indépendance en 91, en 2003, en 2014, ce sont les trois moments fondamentaux pour l'histoire des Kurdes. Je vais pas l'analyser. Pourquoi? C'est parce que il y avait, des fragilités économiques, comme Arthur le dit, des fragilités politiques, des fragilités militaires, des fragilités sécuritaires, des fragilités à tous les niveaux. Mais en 2017, en analysant la totalité ou presque des données factuelles qu'on disposait, j'ai retenu, bien évidemment, tout ça c'est très important, toutes ces fragilités déterminent partiellement la question de l'indépendance du Kurdistan. Mais je pense personnellement, l'élément fondamental qui a déterminé le non-accès kurde à l'indépendance, c'est la volonté du système international. Il y avait, le 25 septembre 2017, un consensus de Washington à Paris, hein, les alliés kurdes, les alliés du gouvernement régional du Kurdistan, à avoir un gouvernement régional du Kurdistan fort à l'intérieur d'un Irak uni. Tout le monde soutenait et soutient encore aujourd'hui le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan, mais à condition que ce gouvernement reste à l'intérieur de l'Irak, parce que le système international a encore besoin de cette présence du GRK dans le bourbier irakien.
Reste à l'intérieur de l'Irak et reste dans les frontières originelles, je veux dire celles de la Constitution de 2005, parce que c'est aussi peut-être l'un des problèmes qui explique l'opposition et la riposte de Bagdad, c'est-à-dire qu'il y a aussi des territoires qu'on dit disputés, c'est-à-dire ces territoires qui ont été libérés par les Kurdes de Daesh, que les Kurdes ont revendiqué. C'est aussi ça, c'est l'un des sujets.
51% du territoire du Kurdistan irakien le territoire disputé. Les Kurdes appellent des territoires détachés du Kurdistan. Le gouvernement Bagdad appelle des territoires disputés. Mmh. Et lorsque Massoud Barzani, en 2014, à la demande du Premier ministre Nouri Maliki, revient avec son armée Peshmerga dans ces territoires-là, il dit, c'est fini, l'histoire s'arrête là, désormais ces territoires, on n'a pas pu mettre en place un référendum, ils font partie du Kurdistan irakien, mais à cause ou grâce, ça dépend de quel point de vue on se place, du système international, le 16 octobre 2017, comme conséquence du référendum de l'indépendance du Kurdistan, les milices chiites reviennent dans ces territoires-là et ils occupent ou ils libèrent, ça dépend encore une fois à quel point de vue on se place, ils contrôlent de toute façon la totalité de 51% de ces territoires disputés. Si vous me permettez une seule phrase sur la tendance milicienne pour mettre en place un état fort en Irak. Juste une petite phrase.
Je vous en prie.
Effectivement, ces organisations miliciennes qui appartiennent à Hashd al-Shaabi, la mobilisation populaire, ont cette tendance-là, cette stratégie d'action-là, à savoir contrôler la totalité de l'État irakien, et c'est ce qu'ils font. Hein. Mais personnellement, je refuse à Arthur, à Florian, la thèse de l'État dans l'État, la troisième force ou la main invisible des miliciens à l'intérieur de l'État irakien. Personnellement, je pense les milices ne constituent pas la troisième force, ne constituent pas un État dans l'État, nous constituent constituent pas la main invisible. Au contraire, ils sont l'État. Ils ont l'État. Ils sont l'État et ils ont l'État. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2003, avec le soutien des États-Unis d'Amérique, c'est à partir de ces bases miliciennes que les États-Unis d'Amérique vont reconstituer l'État irakien. Autrement dit, l'État irakien actuel est une refondation à partir de ces bases miliciennes. Les milices, ils sont partout, ils sont ministres, ils sont ambassadeurs, ils sont directeurs généraux, ils sont un peu partout. Et donc, l'État est milicien. Mais par contre, est-ce que nous devons retenir, c'est que les rapports de force des pays du système régional et des pays du système international ont changé. Les milices désormais sont perçues, identifiées, qualifiées comme des organisations terroristes et les États-Unis d'Amérique n'acceptent pas désormais leur main lourde sur l'État irakien. Alors, ce qui empêche, bien évidemment, cette tendance, Dorian, pardon, cette tendance forte de monopoliser ou de mettre en place un État à la fort à l'image des milices. Pardon.
J'aime beaucoup, Sharad El-Bakawan, votre capacité à enchaîner des dernières phrases. On va poursuivre, évidemment, mais je voudrais faire réagir Arthur Kenney, justement, autour de ces milices, dont vous dites qu'en réalité, elles ne sont pas seulement présentes dans le domaine sécuritaire, mais bien au-delà. Et d'une certaine manière administre les territoires, raison pour laquelle vous parlez, vous, d'État milice. On va en parler tout de suite avec vous, Arthur Kenney, mais d'abord, je voudrais vous faire écouter peut-être une voix importante du côté de l'Irak, le chef de la milice chiite irakienne Badr, qui va insister sur le fait que son organisation se bat d'abord pour l'Irak. C'est une interview qu'il avait donnée à France 24 en juin 2015. Écoutez.
Nos forces sont irakiennes, non pas iraniennes. Nous sommes des forces du gouvernement irakien qui travaillent sous l'ordre du Premier ministre. Quand l'Occident et les États-Unis disent qu'ils veulent soutenir notre Premier ministre, Haïdar Abadi, ils doivent soutenir nos forces. Je n'ai pas d'ambition politique, j'ai des ambitions de combat. Je veux libérer tout l'Irak. Il libérait toute la région de Daesh, car je crois que Daesh est une tumeur qui ne va pas s'arrêter. Et si on ne traite pas Daesh, cette tumeur, ça va se métastaser dans toute la région. Pour moi, je l'affirme, l'important c'est de servir le peuple irakien.
L'important, c'est de servir le peuple irakien. Voilà ce que disait Hadi Al-Amari à la tête de l'organisation politique chiite Badr et du groupe armé éponyme Badr ayant été créé au début des années 80, qui rassemble entre 10 000 et 50 000 hommes, qui fait partie justement de Hashd al-Shaabi que vous évoquiez, Adel Bakawan, c'est-à-dire ces unités de mobilisation populaire qui ont été formées en 2014 et qui sont si puissantes aujourd'hui. Arthur Kenney, l'image que l'on a aujourd'hui, c'est celle de milices chiites en Irak qui sont totalement aux ordres et sur la ligne politique de Téhéran. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il peut quand même y avoir des choses à nuancer sur ce point-là? Parce que l'idée que ça donne, c'est qu'au fond, ces milices chiites sont le bras armé de Téhéran et que, au fond, eh bien, c'est depuis tout Téhéran que tout se décide, Arthur Kenney.
Tout à fait. En fait, l'Irak actuel et l'Irak, pour comprendre la dynamique actuelle, il faut remonter sur la guerre Iran-Irak. C'est à l'occasion de cette guerre où en Iran, les brigades Badr sont créées pour intervenir militairement contre l'Irak. Et en 2003, ces brigades Badr reviennent s'installer en Irak. D'autres groupes miliciens pro-iraniens également se réinstallent, avec différentes forces politiques également. Et c'est ces groupes, ces différentes factions qui vont profiter du vide créé par les Américains pour restructurer l'État et s'assurer la domination sur l'ensemble de l'État. Après, de là, savoir si c'est un État dans l'État ou s'il contrôle totalement l'État, je pense qu'il n'y a pas de monopole total sur l'État irakien, parce qu'il y a des tas d'autres factions qui existent. Il y a des factions libérales chiites également, l'Ayatollah Sistani également, en fait, très nationaliste irakien, et regarde d'un mauvais œil l'influence de l'Iran sur le pays. Cependant, le départ des Américains, puis ensuite la guerre contre l'État islamique, va permettre à ce conglomérat de partis politiques, d'organisations miliciennes chiites pro-iraniennes, de prendre la main sur le territoire, donc reconquête du territoire sur l'État islamique, ensuite les structures sécuritaires, donc approfondir leur mainmise sur l'armée irakienne, le complexe militaro-industriel irakien, et puis ensuite, depuis deux ans, le passer aux politiques. Et donc il y a eu les élections qui leur a permis d'avoir un certain nombre de représentants, et puis donc de reformer un gouvernement cette fois-ci largement sous influence iranienne sur le choix des ministres, le choix de certains cadres, des directeurs de départements, des ministères, etc. Mais ensuite, essayer de contrôler le politique, ça veut dire mettre sous tutelle la classe politique chiite libérale qui, elle, est opposée à une influence de l'Iran, totale de l'Iran sur le pays. Et c'est là où on voit différentes factions qui rentrent en collusion. C'est là où on voit également la population qui descend dans la rue pour s'opposer à cette mainmise des milices chiites sur l'État, ce qui est synonyme en fait de corruption, d'augmentation des inégalités, etc. Et donc en fait, on voit en Irak différentes tendances qui s'affrontent, mais non pas sur forcément une division du pays, plus sur quel projet politique pour l'Irak. Et on parlait tout à l'heure donc du système international, donc Adel Bakawan en parlait, qui empêche l'État irakien d'éclater. Évidemment, il y a aussi les États de la région, et dont notamment l'Iran et la Turquie, qui ne veulent absolument pas d'un Kurdistan indépendant, tout juste s'il tolère son autonomie, et qui s'opposent aussi également à un éclatement du pays entre une région chiite, sunnite et kurde. Au contraire, le projet politique qui est mené actuellement en Irak, c'est la reconstruction d'un État irakien. Alors certes, avec les sunnites auront une citoyenneté de seconde zone, notamment les populations rurales. Dans les villes, il faut voir un peu comment cela s'agence. Hein. Il est différent. Il y a aussi une classe moyenne sunnite qui réémerge hein, avec le développement de l'économie. Mais c'est, je pense qu'il faut la trajectoire de l'État irakien actuellement est plus complexe et les forces en présence tentent de reconstruire un gouvernement et un État sur un plan national, ou des objectifs nationaux, en tout cas.
Adel Bakawan, c'est
intéressant. Et les Kurdes sont bien sûr périphériques dans cette stratégie.
Adel Bakawan, c'est intéressant parce que on n'a pas toujours cette lecture-là depuis la France. C'est-à-dire qu'on peut être aujourd'hui chiite irakien et nationaliste irakien. On peut être chiite en Irak et prenez le chemin d'une forme d'émancipation vis-à-vis de Téhéran. La question est de savoir si ce camp-là est prêt à organiser la reconstruction d'un État irakien dans lequel les autres, c'est-à-dire les sunnites et les kurdes, auraient leur place, Adel Bakawan.
Au sein de la communauté chiite, du territoire chiite, vous avez trois écoles, vous avez trois tendances. Vous avez une tendance nationaliste qui souhaite prendre l'irakicité pour le référentiel et proposer un projet commun à tous les Irakiens, sunnites, chiites, kurdes, musulmans, chrétiens. Vous avez également une deuxième école, une deuxième tendance avec une base militante sociale, mais aussi une base militaire, c'est la Marjaria, en partant bien évidemment d'un référentiel religieux. Il faut pas oublier que la Marjaïa d'Ayatollah Sistani dispose 40 000 milices avec quatre organisations miliciennes, et vous avez l'école ou la tendance iranienne qui est lourdement armée et qui a la main sur l'État irakien et qui a à la fois la base sociale et la base militaire. Ces trois tendances, ils sont en conflit. La tragédie des nationalistes libéraux sunnites chiites, c'est que leur base sociale est très 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 fragile. Ils ne disposent pas des forces armées. Ils ont le soutien des pays du système international, notamment l'Europe et les États-Unis, à certains niveaux la Turquie, voire l'Arabie Saoudite. Mais ce soutien ne suffit pas pour déterminer les rapports de force.
Parce qu'ils n'ont pas l'assise sociale, vous voulez dire?
C'est ça, parce qu'ils n'ont pas une base sociale solide. Je vous donne l'exemple de Kazemi. Kazemi est arrivé au pouvoir.
Attendez, Adel Bakawan. Kazemi, Mustafa Al-Kazemi, c'est le Premier ministre irakien qui est arrivé en mai 2020. Voilà, ferme la parenthèse, allez-y.
Bien sûr, Mustafa Al-Kazemi, le premier ministre irakien qui est au pouvoir avec le soutien des États-Unis d'Amérique et de l'Europe, ne dispose pas un seul député. Il n'a pas une base militante, il n'a pas un parti politique.
Mais est-ce que ça peut changer, Adel Bakawan? Il va y avoir des élections qui vont être organisées, c'est des élections anticipées. Ça sera au mois de juin, là, dans quelques mois.
Peu probable. Pourquoi? Parce que le corps électoral chiite est divisé. Le mouvement de Muqtada Sadr a entre 20 et 32 sièges. Quoi qu'on fasse, la tendance al-Hakim a entre 19 et 25 sièges. Cela ne change pas. La tendance de Hadi Amri, les pro-iraniens, entre 30 et 40 sièges. Cela ne change pas. Le corps électoral est orienté, formé, et structuré. Mais je voulais juste une dernière phrase.
Encore une!
Pour dire à mon cher ami Arthur, c'est que...
À qui on va donner la parole,
hein. Bien sûr. Tout de suite, ouais. C'est que imaginez le porte-parole de Kataib Hezbollah, les brigades de Hezbollah en Irak, dit au Premier ministre, il est temps qu'on coupe vos oreilles. Parce que tout simplement, le Premier ministre a critiqué des roquettes de Hezbollah qui tombaient sur l'ambassade américaine à Bagdad. Mmh. Et ce Premier ministre n'est absolument pas capable, normalement selon le cadre juridique irakien, les Kataib Hezbollah font partie de la mobilisation chiite qui est sous la direction du Premier ministre.
Oui, voilà. C'est un homme pour peut-être rassembler un peu tout cela qui est vu du côté de l'Irak comme peut-être un peu trop proche des États-Unis. Par exemple, il est accusé d'avoir laissé les États-Unis éliminer Qassem Soleimani en janvier 2020. Qassem Soleimani, c'est ce général iranien qui commandait les forces Al-Quds et qui était vraiment la pièce maîtresse dans le dispositif d'influence iranien du côté de l'Irak. Arthur Kenney, je vous donne la parole. Allez-y.
Alors, ce que dénonce Adel Bakawan, c'est la formation en Irak depuis la fin de la guerre contre l'État islamique d'un État profond. Un État profond qui s'est donc milicien, tenu par des milices pro-iraniennes avec un financement donc transnational, qui tente de prendre la main sur le gouvernement. Elles tentent pas forcément de remplacer le gouvernement actuel, parce qu'en fait elles ont besoin de l'élite politique chiite libérale, c'est-à-dire évidemment ils ont besoin aussi de la reconnaissance internationale, mais y compris de la reconnaissance américaine pour des questions économiques, c'est-à-dire les réserves de la banque centrale irakienne sont aux États-Unis. Néanmoins, elles tentent de prendre la main sur l'État et de contrôler les décisions du gouvernement. Et de là, différentes tentatives de pression, donc de séquestration du Premier ministre, de survol du palais présidentiel par des drones pilotés par les miliciens. Et tout cela pourquoi? Parce que en Irak, depuis la fondation de l'Irak, les ressources sont en centre. Les coups d'État se font à Bagdad. Et ça explique, à mon sens, qu'il n'y ait pas d'éclatement du pays, malgré... C'est un pays qui est quasiment en guerre civile continue depuis sa création. Mais seulement, il n'y a pas d'éclatement, parce que les ressources sont en centre. Celui qui contrôle Bagdad, tôt ou tard, peut reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire, comme ce qui s'est passé en 2017 sur l'État islamique, et puis également sur les territoires disputés tenus par les Kurdes, qui ont été repris par l'armée irakienne avec le soutien des milices chiites. Donc on voit là, en fait, un État finalement extrêmement centralisé dans la pratique. Du pouvoir, celui qui va contrôler Bagdad va contrôler en fait l'Irak. Et bien qu'il puisse avoir des forces autonomes comme le KRG, hein, donc les partis kurdes dans le nord de l'Irak qui ont une certaine autonomie, ils sont dépendants de l'État central.
Et Arthur Kenney, vous évoquiez l'État islamique, accessoirement, officiellement Daesh a été vaincu, son chef Abu Bakr al-Baghdadi a été éliminé. Il n'en reste plus rien aujourd'hui en Irak. Le risque d'une réémergence d'un nouveau califat sur le territoire irakien, il est exclu aujourd'hui. Arthur Kenney.
Allez, alors l'État islamique n'est pas seulement composé de cellules dormantes, au contraire, il est déjà de retour, notamment dans les territoires disputés où l'État irakien et le manque de coopération entre les forces irakiennes et les forces kurdes permettent à l'État islamique de se réimplanter. Pour le moment, l'État islamique n'est pas assez puissant pour reprendre le contrôle des villes où, en plus, les dispositifs miliciens se sont réinstallés et contrôlent l'économie, la population, ce qui laisse très très peu d'espace pour l'État islamique pour déstabiliser. Cependant, dans les campagnes, dans les zones rurales, principalement dans les territoires disputés, l'État islamique est extrêmement présent, fait des attaques quasiment hebdomadaires contre les forces du gouvernement ou kurdes, et de là connecte avec la Syrie.
Oui, c'est déjà une réalité. Adel Bakawan, allez, je vous donne 40 secondes, Adel Bakawan, pour peut-être en guise de conclusion, je vous en prie.
Personnellement, je ne suis absolument pas optimiste pour le retour d'un État fort en Irak. Au contraire, l'État irakien est classifié comme parmi les 32 États les plus fragiles au monde. Toutes les conditions sont réunies pour malheureusement assister à sa défaite, à sa décomposition. Ce qui empêche cette décomposition ici et maintenant, ce n'est absolument pas les infrastructures solides de cet État, mais c'est cette volonté des pays du système international et régional. Une fois cette volonté commence à s'interroger, demain on n'aura pas un État irakien, on n'aura plus un État irakien.
Oui, on comprend du coup le titre que vous aviez choisi pour votre dernier ouvrage, L'impossible État irakien. Merci infiniment Adel Bakawan d'avoir été avec nous ce matin. Arthur Kenney, j'indiquerai également peut-être que vous êtes l'auteur d'un ouvrage à paraître très prochainement sur l'Irak, justement la guerre civile irakienne, ça sera chez Kartala, mais avec la situation sanitaire, les choses sont régulièrement repoussées, mais ça devrait être maintenant imminent. Et puis je rappelle également que vous êtes co-auteur avec Adam Bachko et Gilles Doron-Soro qu'on avait hier, de Syrie, anatomie d'une guerre civile, aux éditions du CNRS. On peut retrouver toutes les références de vos ouvrages à l'un et à l'autre sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Voilà, c'est avec cette magnifique voix irakienne que l'on se quitte. Pareil, on met toujours les références musicales sur la page de Culture Monde. Et puis, ces commémorations des 10 ans des printemps arabes se poursuivent aujourd'hui sur France Culture toute la journée. On aura dans un instant Olivia Gesbert. Elle va en parler également. J'en profite peut-être pour remercier nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. D'abord plus nombreux au niveau de la chaîne, au niveau de France Culture, et on s'en réjouit. Et en particulier, au niveau de Culture Monde, vous êtes maintenant 408 000 auditeurs en moyenne chaque jour à écouter l'émission. C'est 117 000 de plus que l'année dernière. On vous remercie infiniment. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ça peut nous faire. Tiens, on va retrouver un homme qui, lui aussi, eh bien, est à l'origine de ce succès. C'est Brice Couturier, son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian, bravo et merci.
Bravo à vous Brice. Parmi les dossiers sensibles, Brice, qui attendent Anthony Blinken, le nouveau secrétaire d'État choisi par Joe Biden, en haut de la pile, le Venezuela.
Eh oui, par ses échecs, le régime a en effet provoqué la pire crise de réfugiés jamais connue en Amérique latine. D'après l'ONU, 5,5 millions de Vénézuéliens, un habitant sur 6, ont fui leur pays pour chercher asile dans les pays voisins. C'est comparable à la guerre civile syrienne dont vous venez de parler. Et cela constitue pour les autres voisins un défi humanitaire que Washington ne peut ignorer. L'administration Trump a été incapable de faire bouger les lignes à Caracas. Elle avait pris fait et cause pour le président autoproclamé Juan Guaido, leader de l'opposition, mais c'est Nicolas Maduro, le successeur de Chavez, qui continue à tenir le pays d'une main de fer. Il a le soutien de l'armée et il dispose de forces de police connues pour leur extrême violence envers les opposants au régime. Les trois responsables de la mission mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour enquêter sur les droits de l'homme au Venezuela ont rendu leur rapport à la fin d'année dernière. Il est accablant. Martina Valinas, Francisco Cox Vial et Paul Sales font état de détentions arbitraires, de tortures, en particulier de violences sexuelles et d'exécutions extrajudiciaires. Des violations des droits de l'homme d'une telle ampleur qu'ils équivalent, écrivent-ils, à des crimes contre l'humanité. Dans un article mis en ligne sur le site Telos EU, Diego Lombardi fait observer que la détérioration des éléments constitutifs d'une démocratie certes imparfaite, menant à un système franchement autoritaire, s'est faite au Venezuela, je cite, au ralenti, à une vitesse presque imperceptible pour le citoyen. Si l'on prend pour critère l'indice mis au point par l'Institut suédois VDEM, on constate que la détérioration s'est déroulée de manière graduelle et sur une période de 20 ans. Sous Hugo Chavez, la dégradation a été brutale, mais le régime bénéficiait encore au début d'une certaine popularité. Puis, il a dû multiplier pour se maintenir au pouvoir les irrégularités électorales. En 20 ans, écrit Lombardi, le Venezuela a basculé d'un gouvernement autoritaire soutenu par les Vénézuéliens à un autre gouvernement autoritaire mais sans soutien. On peut dire en fait que le maintien au pouvoir du premier nécessitait moins de fraude électorale, même si déjà les irrégularités étaient de mise. Les élections sont à présent truquées à une telle échelle et avec un tel cynisme que l'opposition vénézuélienne a préféré boycotter le scrutin du 6 décembre dernier. Comme elle était majoritaire, cette opposition, dans la dernière Assemblée nationale, M. Guaido a proclamé que celle-ci resterait en place. Bien sûr, le Tribunal suprême de justice, qui est aux mains des chavistes, a invalidé cette décision. Mais on ne se trouve pas dans la situation dont rêvaient Washington et la plupart des États d'Amérique latine, d'autant que la Russie et la Chine, qui ont à présent d'importants intérêts au Venezuela, reconnaissent, eux, les résultats des élections et soutiennent activement la quasi-dictature de Maduro.
Alors Brice, comment sortir de cette situation qui est absolument dramatique pour les Vénézuéliens ?
D'après Michael Camilleri, la nouvelle administration américaine maintiendra les sanctions économiques décidées par la précédente, mais elle remplacera les discours belliqueux sans effet notable sur place par des négociations. Le secrétaire d'État Anthony Blinken cherchera surtout à agir de concert avec les autres pays d'Amérique latine. La décomposition du Venezuela les embarrasse en effet, et depuis quelque temps, ils avaient semblé renoncer à voir ce pays sortir du chaos. L'opposition et les voisins misaient en effet sur ce qu'on appelait un agenda en trois étapes, dont la première étape prévoyait une rupture entre les militaires et le régime. Celle-ci n'ayant pas eu lieu, il est difficile donc d'enclencher les deux suivantes. Pourtant, souligne Diego Lombardi, le régime bénéficie des divisions de l'opposition. Une partie d'entre elles continue à juger utile de participer aux élections. Une autre s'accroche encore au plan en trois étapes. Une autre enfin mise sur une intervention étrangère, jugeant le régime trop consolidé pour être renversé de l'intérieur. La dictature s'étant construite graduellement et par étapes, comme on vient de voir, la sortie de crise devrait adopter le même gradualisme, estime Diego Lombardi. D'autant que, je le cite, les options rapides pourraient pousser le pays sur la voie sans issue de la violence. Il faut insister sur le fait que la modération n'implique pas de renoncer aux aspirations démocratiques et à la liberté, mais de chercher un socle commun entre le régime et l'opposition pour construire une sortie viable. Je cite encore, le meilleur pari pour le Venezuela est celui d'une contre-révolution au ralenti, conclut l'auteur, si l'on considère bien sûr que le régime fondé par Chavez et maintenu par Maduro, sous prétexte qu'il se réclame du socialisme, a constitué une révolution. Le régime lui-même a intérêt à faire machine arrière et à tenter une désescalade. Il a besoin de prêts et d'investissements internationaux pour sortir de l'impasse où il s'est lui-même enfoncé.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Rendez-vous demain pour ce qui est du numérique, lundi pour ce qui est de la radio. Bon week-end à vous. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.
Vous êtes 1 721 000 auditeurs à écouter France Culture. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.